sommes particulièrement heureux d'accueillir Noyuki Sugaya, pour qui évidemment l'aventure bouvardesque est déjà longue, ancienne, puisque Noyuki a fait une thèse sur la médecine et beaucoup d'articles et le livre Flaubert épistémologue et Noyuki, comme d'ailleurs les autres, participe évidemment à ce grand projet qui est plus qu'un projet maintenant, qui est déjà une réalité, que dirige Stéphanie Dor-Coulet à Lyon. Noyuki Sugaya enseigne à l'université de Rikkyō et nous présente La densité des mots dans la fiction des savoirs.
Bon, merci tout d'abord Anne et Jack de m'avoir invité à parler dans cette journée d'études franco-japonaise, je dirais, sur le pouvoir épique. Pour moi, cette semaine, ça a été une semaine franco-japonaise, un chassé croisé, un peu. Parce que ce lundi, je viens d'avoir dans ma faculté une conférence d'Antoine Compagnon qui a parlé de l'antimodernité de Baudelaire en insistant sur l'importance du péché originel devant le public japonais qui n'est pas catholique. En plus, c'est d'ailleurs un flaubertiste qui vient de traduire les antimodernes. C'est Matsuzawa.
Matsuzawa a traduit les antimodernes.
La traduction vient de paraître. En revenant à Beauvoir et Pécuchet, cette journée a été pour moi une occasion de me pencher sur les nombreuses pages de brouillon que j'ai récemment transcrites en vue de l'édition électronique de l'avant-texte de Beauvoir 1 dirigé par Ivan Leclerc. Ce travail de transcription m'a fait en effet entrevoir nombre de problèmes qui mériteraient tous d'être approfondis. Je m'intéresse donc aujourd'hui plus au processus de la rédaction proprement dite qu'à celui de la documentation qui forme toutefois une dimension incontournable de la genèse du roman encyclopédique. Distinction d'ailleurs artificielle, car chez Flaubert, on le sait, l'élaboration narrative et la mise en texte de l'érudition relèvent dans les mêmes processus génétiques qu'il importe donc d'élucider sans rien perdre de vue de sa complexité constitutive. Interrogeant le dernier roman de Flaubert par le biais de ses avatars avant-textuels, je prêterai surtout attention à l'un des aspects fondamentaux de sa textualité, c'est-à-dire l'extrême densité des mots. Posons dès maintenant une question délibérément naïve, mais fondamentale, qui nous guidera tout au long de cet exposé. Comment lire un texte aussi dense et aussi ambigu que Beauvoir et Pécuchet? Autrement dit, jusqu'où convient-il d'aller dans l'interprétation des mots et des phrases qui sont parfois les produits d'un mécanisme compliqué de la réécriture et qui le sert en nous un faisceau de signification à peine décelable. Bien sûr, nous savons tous que depuis Madame Bovary, au moins, l'écriture flaubertienne se caractérise plus ou moins par le phénomène de la condensation et par l'opacité sémantique qui en découle. Pierre-Marc de Biasi, ici, pas présent, a forgé à ce sujet un concept décisif, celui de l'indécidabilité, afin de désigner cette spécificité de l'écriture elliptique de Flaubert. Ainsi, relativement à la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, il a mis en relief l'importance du travail de problématisation. Je cite, « Ce qui, dans le sens du récit, paraissait clair au milieu de l'action, Flaubert travaille à le rendre indécidable. On voit bien que cette remarque s'applique aussi parfaitement à Beauvoir, dont le texte se signale plus que ses autres œuvres par la brièveté du style et sa force suggestive, sans compter l'extraordinaire épaisseur épistémologique résultant des nombreuses références scientifiques convoquées. Bien des passages dans ce roman sont effectivement d'une opacité irréductible et met en défaut la quête herméneutique des lectures qui cherchent à déterminer le sens ionique. Aussi faut-il se demander comment faire face à cette opacité énigmatique du texte qui fait partie intégrante de la tension poétique de l'œuvre. Une des pistes de la réflexion, c'est sans doute la temporalité qu'implique le texte de Beauvoir. Claude Mouchard, dans son article sur les bibliothèques de Flaubert, article rédigé en fait par Troyes avec Anne et Jacques, Claude Mouchard insiste sur le caractère irréconciliable entre les deux temporalités incluses dans le roman encyclopédique. La temporalité scientifique, introduite dans la fiction par les multiples savoirs convoqués, est datée par sa nature même, tandis que la temporalité de la fiction vise toujours à une sorte de pérennité. Bien que toute œuvre littéraire soit nécessairement marquée au coin de l'historicité, il est en même temps certain que le roman flaubertien présente un cas limite qui impose un rythme particulier de la lecture. Pour ma part, j'aimerais bien ajouter à cette distinction la temporalité génétique susceptible elle-même d'être différenciée en plusieurs strates. La densité sémantique de Beauvoir cache en effet fréquemment la mémoire de l'avant-texte qui subsiste dans l'état final sans pourtant s'y superposer tout à fait. La question nous vient donc à savoir où se placer pour lire ce texte traversé par différentes couches temporelles. Car il est évident que la lecture de la seule version finale ne lit pas exactement de la même manière que celui qui connaît les versions antérieures. Ce dernier, plus ou moins hanté par la mémoire avant-textuelle, ne peut pas s'empêcher de lire en filigrane les éléments disparus au cours de la Genèse et vers lesquels le texte condensé semble souvent faire signe. La question du reste ne concerne plus uniquement les spécialistes, mais tous les lecteurs possibles, dans la mesure où l'intégralité des dossiers manuscrits sera bientôt disponible grâce aux éditions électroniques, y compris celle de Stéphanie. Alors, comment aborder cette œuvre inachevée dont la structure circulaire est ouverte à la fois sur sa propre jeunesse et sur l'énorme archive préexistant? Telle est donc la question qui se pose à nouveau sur Beauvoir pêché à l'âge numérique. Question qui n'aura peut-être pas de réponse définitive. C'est en tout cas pour lui apporter quelques éléments de réflexion que je me propose maintenant d'examiner deux exemples concrets concernant la production de l'ambiguïté. Le premier exemple se rapporte à la transition entre la chimie et l'anatomie. Au début du chapitre 3, Beauvoir et Pécuchet, embarrassés par les difficultés de la chimie organique, s'avisent de recourir au docteur Vaucorpey, dont ils pensent qu'il pourrait sans doute les éclairer. Après lui avoir exposé le but de leur visite, Pécuchet pose brusquement une question. Nous désirons connaître premièrement l'atomicité supérieure. Le médecin nous dit beaucoup, puis les blâma de vouloir apprendre la chimie. Je ne nie pas son importance, soyez-en sûr, mais actuellement, on la fout partout. Elle exerce sur la médecine une action déplorable, et l'autorité de sa parole se renforce au spectacle des choses environnantes. Il est fort aisé de s'apercevoir du caractère ambigu de ce passage. Aucun lecteur, en effet, ne prendra la lettre de la réponse du docteur, même s'il est de bons hommes, quant à eux, se laisse naïvement convaincre par son argument et abandonne aussitôt la chimie pour se lancer dans l'étude médicale. Nous sommes plutôt enclins à deviner un désarroi derrière l'attitude équivoque du médecin qui esquive la question à laquelle il ne serait peut-être pas en état de répondre. le fait qu'il devient soudain rouge constitue assurément un indice capable d'induire un soupçon au sujet de sa sincérité. Pourtant, il n'en est pas moins vrai que le texte romanesque ne nous donne ici aucune preuve formelle sur le vrai motif de sa réaction. De fait, on ne peut pas exclure, au moins théoriquement, que sa rougeur vient plutôt de l'indignation contre la chimie dont il se prend de la mauvaise influence sur l'art de guérir. Ce passage est donc caractérisé par un certain flottement de sens qui nous autorise ainsi à interpréter de façon contradictoire. Si l'on se reporte à l'avant-texte, on ne tardera pas à se rendre compte que cette ambiguïté sémantique provient d'une série d'opérations rédactionnelles consistant à enlever exprès des clés interprétatives trop univoques. Cela n'étonnera pas du reste des spécialistes de Flaubert connaissant plus ou moins le mécanisme de son écriture. Ce que Gérard Genette a nommé la démotivation s'applique ici parfaitement à la réaction du médecin de Chavignol, laquelle, pleinement motivée dans un premier temps, se voit ensuite dépouillée de toute notation explicative. Il est ainsi possible de discerner dans le brouillon deux thèmes psychologiques majeurs susceptibles d'éclairer la pensée de Vaucorbeil. Le premier thème est celui de ses antécédents de Vaucorbeil qui apparaît dans le premier brouillon. Antécédent, les dissuades de la chimie. La juxtaposition est ici éminemment suggestive et incite à supposer une relation causale entre les deux phrases. Cette hypothèse est confirmée par le second brouillon où l'on trouve exposé l'intérieur du personnage. D'abord, ses antécédents, refusés au concours de l'internat, avaient exercé à plusieurs endroits, aigris, se regardant comme déplacés, mauvais caractère. Et dans la marche du même folio, dans la marche du même folio, ce que j'ai pas marqué en rouge, cette dernière parole là-dessus, et un échoué au concours de l'internat, c'était un homme aigri, découragé, et qui naturellement décourageait les autres, dissuade d'étudier la chimie. D'après ce schéma, le trait de caractère du médecin, méchanceté, déterminé par son passé, c'est-à-dire ambition manquée, est à l'origine de sa conduite actuelle. Homme de ressentiment, il cherche à passer son amertume sur les autres, tout comme il se plaît à démoraliser les deux apprentis chimistes. Or, il est fort probable que Flaubert n'a pas été content de cette motivation. Cette motivation présente en effet l'inconvénient de ne pas se rapporter directement à la discipline concernée. Elle est applicable à n'importe quel domaine de savoir dans lequel le docteur se met en conflit avec les deux protagonistes. L'examen des manuscrits montre nettement que les antécédents de Vaucorbeil constituent un thème récurrent, je dirais un thème migrateur, utilisé de la tour dans plusieurs endroits du récit, comme par exemple dans l'épisode de l'aspect. Entre parenthèses, il doit être intéressant d'étudier les diverses apparitions de ce type de thème migrateur dans l'ensemble du corpus manuscrit. Je ferme les parenthèses. L'écrivain s'efforce en tout cas de mettre au point une autre motivation psychologique qui se rattache plus particulièrement à la chimie. Ainsi, il esquisse dans la marche du troisième brouillon un petit dialogue contenant un aveu plus ou moins conscient du docteur. Face à Pécuchet, qui s'obstine à continuer la chimie, cependant, avec de la volonté, on réussit. Il réplique, Vaucorbeil réplique. Ça ne suffit pas toujours, répliqua amèrement le docteur, en soupirant, faisant sans doute allusion à lui-même. L'allusion au devoir personnel du docteur explique en retour son comportement à l'égard de Beauvoir et Pécuchet. La motivation atteint ici un degré de précision qui ne permet pas d'ambiguïté. Si vos corbeilles se montrent hostiles à l'étude de la chimie, c'est qu'il n'y a pas réussi de humain. De même, le sens de sa rupture est désormais sans équivoque. Incapable de répondre à la question posée par Pécuchet, sa colère sert d'alibi pour dissimuler sa confusion. Ce second thème, certainement plus efficace que le premier qui le remplace, est encore davantage développé dans la marche inférieure de septième brouillon. Et se vengeant sur elle, ça signifie la chimie, se vengeant sur la chimie de ne pas la savoir, il déplora son influence désastreuse sur la médecine. Il la dénigra. On ne s'étonnera pas toutefois que ce degré maximum de la motivation est immédiatement suivi de sa disparition complète. Dès l'étape suivante, nous voyons le docteur attaquer l'idée de s'occuper de chimie sans pour autant pouvoir pénétrer dans son fort intérieur. Ce phénomène de désarticulation narrative est bien connu des familiers de l'avant-texte flaubertien. Ce qui complique toutefois l'interprétation de ce passage, c'est que l'argument allégué par le docteur dans le but de justifier son attitude appartient bel et bien au discours savant de l'époque partagé par des médecins aussi éminents que Bichat. En effet, la critique du chimisme constituait un sujet majeur de débat scientifique dans la première moitié du XIXe siècle. Ce du comment médical a été formulé entre autres par Xavier Bichat, dont l'enjeu n'était rien d'autre que le vitalisme. Suivant ce fondateur d'anatomie moderne, la vie possède une autonomie par rapport aux lois physiques et chimiques. Il faut séparer la science physiologique avec les sciences accessoires, ce qu'on appelait à l'époque les sciences accessoires, traitant des corps inanimés. Compte tenu des contextes culturels des années 1840, temps de l'histoire du roman, cette position peut être comprise comme une forme de résistance, une forme de méfiance de la pensée médicale envers la chimie de plus en plus prédominante. Quant au médecin de Chavignol, Fauquelbeil, il ne fait en quelque sorte que répéter cette idée reçue en déplorant l'empiètement de la chimie sur la médecine. L'ironie du texte suggère qu'il peut s'agir là d'un camouflage de sa propre ignorance. Il reste que l'argument qu'il emploie présente une interrogation scientifique de la plus haute importance. Dans l'avant-texte, Fauquelbeil invoque une belle comparaison pour souligner la différence insurmontable qui existe entre les phénomènes vitaux et les faits chimiques. Une fois, ce qui se passe dans une colonie diffère de ce qui s'opère dans l'estomac. L'image employée, l'estomac comme colonie, fait partie d'une tradition vitaliste définie par le lieu de faire du corps humain tantôt en alambic, tantôt en laboratoire, comme le dit Ménuret de Champeau, par exemple, dans l'article « Économie animale de l'encyclopédie ». Si la sincérité de Fauquelbeil est plus que douteuse, la logique de l'excès des vivants sur laquelle il s'appuie est loin d'être négligeable. En somme, ce passage est prévu d'une telle densité relevant à la fois des registres psychologiques et épistémologiques qu'il finira par apparaître comme un palimpseste fort difficile à déchiffrer. J'ai pas beaucoup de temps, donc passons maintenant au second exemple. Dans le cas de la réaction de Fauquelbeil, le mot Luigi fournit une clé assez significative pour éveiller les soupçons des lecteurs avertis. Par conséquent, le jeu d'interprétation est en quelque sorte inhérent au texte romanesque. Dans l'exemple suivant, en revanche, c'est l'opacité même du texte qui se révèle à peine perceptible. Nous allons nous intéresser à l'expérimentation de physiologie que les bons hommes pratiquent sur le chien, dans cet épisode, après avoir hésité un moment entre plusieurs expériences à choisir, qui sont toutes plus ou moins cruelles pour l'animal, il se décide pour l'aimantation de l'acier, pour l'aimantation de l'acier par le contact de la moelle épinière. Je cite, pour voir le flanc son émotion tendait sur une assiette des aiguilles à pécuchet qui les plantait contre les vertèbres. Elle se cassait, glissait, tombait par terre. Il en prenait d'autres et les enfonçait vivement au hasard. Le chien rompit ses attaches, passa comme un boulet de canon par les carreaux, traversa la cour du vestibule et se présenta dans la cuisine. Je voudrais m'arrêter un instant sur le mot « émotion » qui paraît ne poser aucun problème à première vue. En fait, ce simple mot, loin d'être aussi transparent qu'on ne le croit, présente une condensation de toute une série d'éléments narratifs. Il faut d'abord admettre que le lecteur ne sait pas exactement quel genre d'émotion peut voir le sang à ce moment précis. Le terme peut signifier, par exemple, un sentiment d'impatience témoignant du besoin de connaissance. Dans ce cas-là, on peut considérer que le personnage peut voir trop avide de s'assurer du résultat de l'expérience, s'efforce de se contenir le plus possible pour ne pas rater l'opération. Or, cette lecture, l'une des possibles du texte romanesque, ne coïncide pas au moins avec les premières versions du passage. De fait, dans quelques-uns des brouillons, l'émotion de Beauvoir désignait explicitement son horreur de sacrifier l'animal vivant. Il était alors principalement question de l'opposition entre les deux personnages, l'un supportant mal la souffrance infligée au chien et l'autre prêt à immoler même la vie à cause de la science. Le processus génétique qui a d'abord vu se développer au maximum cette antithèse finit par l'estomper et engendre un texte suffisamment ambigu qui n'exclut pas une certaine pluralité de lecture. Voyons donc rapidement de quelle charge sémantique Flaubert a doté le mot « émotion » à travers les étapes successives de la rédaction. La tension entre la manipulation du vivant et la compassion qu'elle suscite se trouve esquissée dès le début de la rédaction, sans que pour autant les attitudes des protagonistes ne soient pas encore différenciées. C'est seulement à partir du cinquième brouillon, folio 279, que Beauvoir se montre moins cruel que son ami. Je cite, il se procurait un chien avec l'idée de le sacrifier plus tard au profit d'une découverte quelconque. C'était une espèce de caniche d'épagnole. La pauvre bête fut nourrie à la chaîne, les caressait, ça lui retirait des larmes. Ça tirait des larmes à Beauvoir. Beauvoir en avait des larmes des yeux, mais il le fallait. Le texte fait ressortir la sensibilité de Beauvoir s'attendrissant jusqu'aux larmes à l'idée de la douleur de chien. Parallèlement, Flaubert s'applique à mettre en place une petite anecdote dont l'objectif est d'illustrer la férocité de Pécuchet. Celui-ci, en effet, prétend vouloir disséquer les hommes vivants. Dans une autre version plus développée, Pécuchet est féroce. Il aurait voulu qu'on puisse livrer à des vivisections, comme au temps des Ptolémées. Ce que l'auteur recherche par l'invention de ces détails, c'est la mise en parallèle des deux tempéraments. La sensibilité de l'un et la dureté de l'autre forment un vrai duo qui rythme et scande la narration à travers tout le texte de Beauvoir. C'est d'ailleurs dans la même perspective que Flaubert envisage d'intégrer dans le roman, dans le récit de ce passage, la mention d'une autre expérience dont le caractère morbide impressionnerait l'imagination des lecteurs. Une idée terrible à propos de chien, car il fallait l'utiliser, celle de Blanche Secard, manuel de Bergeret, c'est la source. L'idée les épouvante. L'idée est boulevard de boulevard. En bas, c'est la, l'expérimentation de grand secteur. Il coupa la tête d'un chien, puis il injecta par les artères du sang oxygéné et des fibrilliniens. La vie le brille tous les signes de la vie, et à son nom, le chien tourna les yeux en signe de connaissance. On voit bien qu'ici encore, la collection instaure l'effet de contraste qui assignait à Beauvard sur la peur provoquée par cette idée terrible. Comme le précise une version ultérieure, il, Beauvard, était trop sensible pour le supporter, de l'envoyer un tel spectacle, pour le supporter un tel spectacle. Quant au terme même d'émotion, il apparaît pour la première fois sur le 11e rayon dans le cadre du même contraste. Voilà. Il se peut voir sentir les larmes du venir aux yeux et pécucher l'éloigner pour le soustraire à sa sensibilité, à son émotion. Le mot émotion, l'embrassant ici, celui de la sensibilité, on peut considérer les deux termes comme synonymes. De plus, une occurrence ultérieure nous fait voir que Flaubert pensait à un moment employé un autre mot capable de mieux traduire l'extrême agitation de Beauvard. C'est cela, plutôt en bas. Tandis que Beauvard, je commence par là, Beauvard peut maintenir le serré entre ses genoux et le flanc son émotion, son horreur en intérieur, et détourner la tête, tandis que pécucher les pétains ne lâche pas. Le mot horreur, ajouté en intérieur, assurément trop fort pour l'intrigue, est tout de suite barré, ainsi que ce geste expressif de la tête détournée. Du reste, cette réaction exagérée de Beauvard indiquant son trouble intérieur se trouve à cette étape génétique corrélée à un autre passage au style indirect libre qui montre les deux expérimentateurs bien conscients de la cruauté de leur entreprise. C'est sur le même folio, plus haut. Le sujet n'en devait pas me dire d'ailleurs, et quand même, la science avant tout. La science requiert donc le sacrifice de vivant. Cette déclaration, quoique attribuée aux deux bons hommes, doit provenir principalement de la part de Pécuchet. En témoigne l'enchaînement du texte reliant directement ces phrases à la volonté. Voilà. C'est pas vrai. Oh là 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 là, qu'est-ce que. Voilà, reliant directement ces phrases à la volonté que celui-ci exprime dans son ardeur de se livrer à des vivisections. La douceur affective de Beauvard face à l'exaltation fanatique de Pécuchet. Flaubert prend soin de mettre en parallèle les attitudes des deux personnages qui se loussent ainsi l'une de l'autre. Le mot « émotion » surgit précisément dans ce contexte narratif et finit par résorber d'autres éléments qui sont tous destinés à disparaître de la surface textuelle. Ainsi, les plumes de Beauvard, l'allusion explicite à son horreur devant l'animal martyrisé, l'expérience grotesque de Brown Secard et les vivisections humaines auxquelles tient notamment Pécuchet, tout cela est finalement supprimé. Tout se passe comme si le parallélisme antithétique développé pendant plusieurs étapes s'était tout d'un coup condensé dans cette seule proposition du texte final, refoulant son émotion. Toutefois, une telle réduction ne peut pas ne pas entraîner un infléchissement ou un brouillage de sens. Le texte final, dont la discrétion trompeuse donne l'illusion d'une homogénéité, repose en fait sur les traces de ce qu'il a rendu possible. On revient alors à la question posée au début de cet exposé. Comment lire un texte si profondément empreint de la mémoire de sa propre histoire? Pour terminer cette réflexion sur Beauvoir et Pécuchet, j'invoque un texte de Proust que j'ai trouvé dans le second volume, dans le second tome de la Nouvelle Pléiade. J'ai pas cité dans... Le texte est tiré de cahier 7 et transcrit dans l'esquisse 6 sous le titre de compte rendu de séjour à Guermantes. Je cite. Alors, ce qui est beau à Guermantes, c'est que les siècles qui ne sont plus y essaient d'être encore. Le temps y a pris la forme de l'espace, mais on le reconnaît bien. Dans l'église, par exemple, le 11e siècle, incarné par les arches rondes, regarde étonné le 13e siècle et le 15e, qui sont placés en face de lui. Chaque partie de l'architecture dérivant d'un moment différent de l'histoire, son ensemble constitue un mosaïque dont la spatialité apparaît comme une figure de temps. Une figure de temps, c'est l'expression de Proust. Or, je pense que cette description proustienne de Guermantes peut nous servir de modèle pour mieux comprendre le texte du roman encyclopédique de Flaubert. On dirait, à l'instar de Proust, que l'espace textuel de Beauvoir est une figure de temps. Dans chaque phrase et dans chaque mot se trouve replié une temporalité particulière, l'envoyant au processus de sa propre jeunesse, aussi bien qu'au temps contextuel de la culture mobilisée. Le texte romanesque, englobant une multitude de strates, donne à entendre un bruit de murmure hétérogène et incite les lecteurs à aller au-delà, ou plutôt en deçà du texte final. Fiction des savoirs, Beauvoir et Pécuchet est un texte mémoire dont l'identité est fondée sur un équilibre subtil entre la cohésion de surface et la profondeur interne. Je vous remercie.
Merci beaucoup de cet exposé qui illumine la densité et qui renvoie bien à ce que c'est la totalité du travail, depuis les notes et les brouillons et la rédaction, puisque c'est dans ce moment de la mise en prose, de l'être prose, que des condensations se font de ce type, et c'est tout à fait fascinant, tout à fait intéressant, en particulier la conjonction de cette invention psychologique diversifiante, hein, différente, avec, alors là, vraiment on pourrait employer le différent avec un A dans ce cas, puisque minutieusement, constamment, l'idée qui passe par B et P doit devenir B, P et la différenciation. Voilà, ce travail de la différence qui va jusque la phrase et la prose et au mot est tout à fait saisissant et fondamental. Parce que cet usage des deux, évidemment, crée la diversité dans la répétition, qui est totalement essentielle. Plus, il faut imaginer cette sorte de mémoire de Flaubert qui fait que la caractérisation B prend une certaine cohérence au fur et à mesure, et la caractérisation P, une autre cohérence. Bon, c'est la spirale des monuments, c'est-à-dire ça avait déjà été qualifié par Yvan Leclerc dans son livre sur cette différenciation cohérente, mais on voit dans le détail que c'est vraiment dans le choix de la prose que cette épaisseur psychologique prend
à la fois psychologique et épistémologique.
Et alors, effectivement, c'est que le psychologique est l'entour de ces grandes différenciations épistémologiques qui sont des questions scientifiques fondamentales, parce qu'au fond, il n'y avait pas besoin de passer par la frustration du médecin pour parler de la chimie, mais précisément, ça donne corps à la fiction. Et peut-être on trouve là des éléments de réponse à la question « Pourquoi la fiction ?» La question qui se pose chez Proust également, et ça c'est très bien. Pourquoi le roman chez Proust ? Why the novel ? Pourquoi le roman ? Alors que précisément l'œuvre a une ambition philosophique, esthétique, primordiale. Ça, on est tout à fait dans ce registre-là. On le voit dans le détail, on voit bien que le roman répond à sa manière dans cette sorte de matière qui est devient prose, et le mot émotion là est tout à fait saisissant.
Ce qui me paraît intéressant dans le second exemple, c'est que les diverses expériences qui ne sont pas retenues de, dans le texte final, mais ces diverses expériences sont utilisées pour différencier, pour voir les péchés, les deux tempéraments. C'est ça la fiction, la dimension fictionnelle de l'homme psychologique.
Et le fait qu'il reste en arrière-fond, pire encore. C'est-à-dire que Flaubert efface du pire encore, quelquefois. Donc, ça atténue quelque chose. Oui, Françoise, Gaïa.
Merci, c'était tout à fait passionnant et extrêmement éclairant. Et notamment, dans le premier exemple, lorsque vous montrez, bon, ce sont des choses que on savait, l'autre, on sait comment on dit, mais lorsque vous montrez comment, finalement, petit à petit, la motivation psychologique, c'est-à-dire les propres échecs du médecin, son manque, peut-être ses limites intellectuelles qui ne m'ont pas permis de briller dans le domaine de la chimie, etc. Comment ces motivations, au fond, vont disparaître? Pourquoi? Parce que, et c'est ça qui me passionne, vous avez dit, au fond, elles ne sont pas pertinentes par rapport à ce dont il s'agit, c'est-à-dire la question de ce savoir particulier qu'est la chimie. C'est-à-dire que ces motivations psychologiques pourraient valoir pour tous les autres savoirs. Alors, on pourrait faire intervenir les motivations psychologiques du même ordre pour tous les savoirs. Et c'est donc pertinence de ces motivations qui font que petit à petit, il ne restera qu'une petite trace. Alors, qu'est-ce qui va l'emporter? C'est finalement quelque chose qui est de l'ordre que vous appelez l'épistémologique, c'est-à-dire la question philosophique, la question qui va opposer la médecine à la chimie, la chimie qui analyse et la médecine qui prend les choses dans leur totalité, leur globalité. Et évidemment, on voit passer ici le vitalisme de Bichat. Mais ces querelles, et derrière, on sent passer les querelles, d'ailleurs, dont Balzac, dans la peau de chagrin, avait d'ailleurs très bien parlé. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer pourquoi il ne prend pas les motivations psychologiques telles quelles. Parce qu'au fond, par rapport à la question qui le préoccupe, c'est-à-dire le choc des savoirs,
bataille des savoirs,
ça n'est pas entièrement pertinent. Mais ça, j'ai trouvé ça
passionnant. Oui, mais c'est peut-être trop dit.
Non,
oui,
c'est ça. C'est ce que je lui dis, il en reste une toute petite trace. Mais il ne s'agissait pas de la développer parce que ça n'est pas nécessairement pertinent, puisque ça peut valoir dans d'autres cas.
Mais je suis tout à fait d'accord, mais tu crois que c'est un peu trop dit, parce que la question épistémologique est aussi commune, quand même.
Elle est commune, mais pas de la même manière, parce qu'à chaque fois, il s'agit de questions épistémologiques concernant tel ou tel.
Elle est diluée, c'est une sorte d'homéopathie permanente.
Il y a la nécessité d'une fiction, mais est-ce qu'il passe dans la fiction?
C'est pour la fiction. Claude Mouchard.
Moi, comme mon prédécesseur, je trouve que c'est trop lumineux, en fait.
Ah oui, vraiment.
Pas un autre. Je voudrais signaler dans le passage, tu ne l'as pas mentionné, mais bon, dans la ligne vivisection, c'est quand même important dans l'époque, Claude Bernard, pathologie expérimentale. Non, parce que la cruauté de Claude Bernard expérimentant sur les animaux est tellement légendaire à l'époque.
Oui, mais justement, il y a beaucoup de choses à développer sur ce point.
Crée des maladies.
C'est vraiment la mention de la cirrhose, Claude Bernard, pour la pathologie. La mention de la cirrhose, Claude Bernard, et justement, c'est en certain moment, dans les autres lectures que Flaubert a prises sur ce livre de Claude Bernard, Flaubert développe certains passages qui témoignent de la cruauté de la médecine expérimentale de Claude Bernard. Et ici, on parle à travers cette figure de la vivisection, on prédit que Flaubert essaie de mettre en œuvre, vraiment la médecine expérimentale, dont il s'agit ici.
Mais pour revenir aussi à ce que Françoise reprenait aussi, la charte dont on s'est très bien parlé, la charte épistémologique, historico-épistémologique de la le passage de Corbeil, là, oui, c'est vraiment effectivement Bichat du Thalys. C'est en fait aussi, tu as peut-être parlé du corps humain, en effet, donc Bichat, mais en fait c'est aussi tout le domaine biologique, de tout le domaine de la vie, toute l'autonomie. C'est tout le problème, disons, c'est tellement riche au XIXe siècle. Est-ce qu'il y a une spécificité radicale du vivant par rapport au domaine chimique, c'est après tout, c'est l'époque, je crois que c'est Lamarck qui crée le mot biologie au début du XIXe siècle. Donc il y a un domaine d'objet spécifique, c'est le vivant. Donc voilà, donc, je voulais simplement souligner ça. C'est magnifique la façon dont tu as montré la condensation. Vous voyez aussi la surdétermination du message, qui est à la fois psychologique et mystérieux. C'est formidable.
On rigolait parce que c'est vrai que c'est ce chien qui tout d'un coup se réanime et qui le regarde. Là, c'est pas une question. Il faut savoir qu'au 19e siècle, enfin à cette époque-là, mais ça avait commencé déjà avec l'évolution, parce qu'on avait pas mal de spécimens sur lesquels travailler, c'était de savoir si un guillotiné, si la tête continuait à vivre et combien de temps, si elle entendait, si elle pouvait voir, etc.
Voilà,
et donc l'idée de lui aider, de lui redonner une espèce de sang, etc., pouvait peut-être prolonger cette vie tête du guillotiné. Et ça, c'est une constante. Hein. Ça commence à la Révolution, et ça va devenir des expérimentations extrêmement scientifiques à l'époque.
Mais justement, c'est une thématique, cette vie guillotinée et qui reprend la vie, c'est une thématique très courante dans les livres médicaux du 19e siècle. Et je crois que c'est la raison de la Révolution.
Absolument,
93, c'est l'imaginaire médical a influencé par 93.
On voulait savoir, on parlait à l'oreille de la tête coupée. Et on avait dit, bon, si vous entendez, vous clignez des yeux, etc. Ouais. Ça commence à la Révolution, mais ça va devenir très scientifique à cette époque-là. Excusez-moi,
J'en reviens à la question de tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y aurait pas une tendance de Flaubert à la réduction psychologique en particulier au ressentiment de l'épistémologie, comme il y a cette tendance dans l'éducation sentimentale pour le politique ça serait, au fond, il y aurait presque une convergence avec Nietzsche,
l'idée que le scientifique
n'est pas toujours,
il y a pas toujours la pureté que. Le sentiment,
il y a toujours
quand même ce
l'objet, le soupçon.
Enfin, oui, soupçon, mais je crois qu'il faut différencier les plusieurs personnages secondaires quand même. Comme il y a une différenciation entre Beauvoir et Pécuchet, il y a aussi une différenciation entre les personnages secondaires. Mais, beaucoup de pays, c'est un homme de le sentiment, c'est sûr. Et ce thème est latent à travers de tout le texte de Beauvoir. Faberge n'est pas. Il a un autre caractère. En tout cas, beaucoup de pays, c'est un homme de le sentiment. Et cette thématique traverse tout le Beauvoir, c'est sûr. Beauvoir est
un Girondin et Pécuchet, un Jacobin, c'est Robespierre.
Est-ce que c'est un rapport avec le fait qu'il passe avec sa cape pour contre la claire-voix.
D'accord.
Je ne sais pas, mais il faudrait.
Sa première apparition.
C'est de l'ethnopolitique. C'est de l'ethnopolitique. C'est le charivari.
C'est la cave ressentimentale.
Oh, oui, c'est vrai, c'est charivari. C'est vrai, c'est charivari.
Je pense très clairement au charivari et aux analyses ethnocritiques à ce sujet.
Je crois que c'est sa première apparition.
C'est la première apparition de Corbeil, c'est de passer avec la canne sur la clairvoie. Donc.
C'est significatif.
Je pose la question, mais est-ce que c'est un rapport...
C'est significatif, ce geste.
Autre question.
Je pose une question
naïve,
c'est significatif de quoi?
Ça renvoie à Charivari, ça renvoie peut-être à un certain caractère de Foucault-Loupey, l'homme de le sentiment, qui est jaloux.
C'est là, en tout cas.
Oui,
en tout cas, c'est là.
Oui.
Si on le relie à Charivari... Autre question.
Oui.
Est-ce que vous parlez de thème migrateur, est-ce que justement ce thème de bisection est un thème migrateur?
Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. À l'intérieur de la section médicale, c'est la seule occurrence. Oui, mais pas plus. Il y a plusieurs occurrences de mais.
Et ils ne vont pas jusqu'à la tête, Flaubert les retient.
Mais peut-être dans la philosophie, je ne sais pas. C'est vrai que dans le chapitre sur l'histoire, il y a une évocation de la terre.
Oui, de la terreur.
De la terreur, c'est vrai.
Mais justement, Flaubert l'évacue, cette notion de vivisection. Il l'étouffe. C'était une de mes questions, c'est tout ce travail merveilleusement montré va tout de même vers une sorte d'étouffement des choses. Et c'est pour ça que le mot émotion à la place du mot horreur est fondamental. Parce que ça aboutit à refoulant son émotion, c'est-à-dire quelque chose, ce qui d'ailleurs décrit exactement le processus de l'épisode, qui consiste à refouler le pire.
C'est l'objectif.
Voilà, et donc, absolument, et ça consiste à refouler des horreurs encore plus grandes, et pour arriver à cette prose quasi plate, refoulant son émotion. Et là, le choix du mot émotion est... Et si bien choisi, et c'est comme voilà, c'est musical, c'est-à-dire il y a comme une sorte d'étouffement des choses pour qu'elles soient plus qu'un arrière-fond se sente, voilà, on ressent un sens.
Mais ce qui est formidable avec Bouffard, c'est toujours on peut toujours interpréter des passages de Bouffard comme une forme de auto-référence.
Oui.
C'est toujours comme ça.
Oui, Annerberg.
C'est aussi le moment où dans l'opinion, on commence à s'inquiéter de la souffrance animale. Oui. Donc, refoulant son émotion, c'est en même temps
un symptôme de
quelque chose qui... Il y a des débats dans la presse sur...
À propos de la douleur à infliger aux animaux.
Oui, exactement. Si je vous ai posé cette question, et ça me rappelle très rarement la transition du magnétisme vers la philosophie, c'est-à-dire que l'hypnotisation des animaux,
d'accord.
Ça fait partie du contexte historique
autour de
l'âme des animaux.
C'est vrai. Donc, c'est la cruauté imposée aux animaux. Victor et Victorine aussi.
Dans l'état d'hypnose, est-ce que l'animal souffre ou pas? Donc, ça fait partie du contexte historique.
D'accord.
Oui, parce que. Tu viens de le citer, mais l'écho de la souffrance animale, c'est évidemment Victor Victorine et le chat ébouillanté.
Et ce que Flaubert s'est documenté sur le texte de Carnier. Donc, je me souviens très vaguement que Flaubert a noté justement l'âme des animaux. Et c'est ça fait. Oui, c'est dans le livre.
L'âme des animaux.
Carnier.
D'accord, c'est intéressant.
Oui, Françoise Gaillard.
Oui, le chat ébouillanté, moi j'ai en tête la souffrance animale, je situe la préoccupation plus tardivement. Parce que dans l'idée qu'il faut faire à la médecine des progrès, et dans cette espèce de positivisme, on accepte cette chose. Et le chat ébouillanté, c'est plutôt du côté de la cruauté.
Oui, oui, c'est ça,
dans le chapitre d'éducation, de la question de la souffrance animale.
Mais c'est les enfants.
Ce n'est pas le thème. Ce n'était pas le thème de mon intervention. J'ai trouvé tout à fait remarquable aussi votre référence finale à ce que dit Proust. Et arrivant à cette idée que vous avez livrée comme ça, du texte mémoire. D'un texte mémoire. Alors, le lecteur qui n'a pas à sa disposition, le lecteur qui jusqu'à présent, enfin jusqu'à avant-hier, n'avait pas à sa disposition ces avant-textes, et malgré tout, à partir simplement de ce qu'il en reste, est presque capable de reconstituer, non pas dans le détail, évidemment, de ce que les brouillons vont nous donner à lire, mais est presque capable de reconstituer tout cet avant. Je crois que c'est pour ça que le terme de densité est juste, mais il y a toute cette histoire que l'on est capable, même si on n'a pas lu ça, même si on n'a pas lu les avant-textes, de reconstituer.
Mais on pressent quand même, on pressent.
C'est on pressent, voilà, il y a une pression du sang, une densité du sang.
Ça y est.
Oui, Claude.
On pourrait dire encore une chose dans le sens de ce que disait Jacques aussi, de toute façon, là. La cruauté qui là devient grand-guignolesque dans les brouillons, comme tu l'as très bien montré, se condense en effet. Donc, c'est intéressant de devenir la cruauté.
ça mange.
Mais justement, c'est la dimension autoréférentielle dont, on a parlé.
Il n'y a pas tout ça.
Bon, c'est là qu'est le travail de la peau. Et le premier exemple m'a frappé, c'est la marginale qui efface la motivation, oui, et qui se termine par le mot silence. C'est une marginale extraordinairement théâtrale, et là j'ai pensé à la lucidité de Nathalie Sarraute. Quand Nathalie Sarraute parle de Flaubert et de la sous-conversation, ça c'est un moment Sarraute, c'est absolument un moment Nathalie Sarraute, hein, parce que en soupirant, hein, amèrement, allusion, silence. C'est du théâtre. Alors, c'est ce qui m'avait frappé justement, c'est cette théâtralité qui est dans théâtralité de l'énonciation, qui doit se marquer par une énonciation minimale et qui va jusqu'à silence d'ailleurs. D'accord. Et ça, c'est vraiment un moment de sous-conversation. Quoi. C'est vraiment ça. Leur pose différente. De même, cet exemple. Exemple, voilà, c'est une sorte de didascalie. Et de même, ce qui est exemplaire dans l'exemple, dans ce que tu as fait tout à l'heure, c'est quand on voit que Flaubert dit il, son émotion, l'émotion submerge Bouvard. C'est-à-dire que le il pluriel se sélectionne en Bouvard et Bouvard devient le sujet. Ça, c'est minimal, mais c'est d'une efficacité parfaite dans la différence entre le travail au sein même de la prose. Ça, c'est magnifique. Merci beaucoup. Nous allons déjeuner. Reprise à 14h, ici même. Et.